À voix nue, Caroline Brouet, cette semaine avec
Jérôme Garcin, très heureux d'être avec vous.
Quatrième épisode, théâtre intime. Bonsoir Jérôme Garcin.
Bonsoir Caroline.
Alors après nous avoir parlé de vos origines familiales, longue généalogie médicale dont vous avez hérité, après nous avoir raconté la perte de votre frère jumeau, Olivier, quand vous aviez à peine 6 ans, et de votre père, Philippe, quand vous en aviez 17, après avoir expliqué comment vous êtes passé de la haine du cheval qui a causé la mort de votre père à la passion de l'équitation, j'aimerais ce soir que vous nous parliez de votre théâtre intime. Théâtre intime, c'est le titre d'un livre paru en 2003 dans lequel vous racontez notamment votre rencontre avec celle qui va devenir votre femme, Anne-Marie Philippe, fille d'un mythe moderne, l'acteur Gérard Philippe, qui a eu une carrière fulgurante et qui a marqué des générations de spectateurs et de spectatrices. Bref, j'aimerais que vous nous parliez de cette famille de cœur que vous vous êtes choisie. Mais théâtre intime aussi parce que j'aimerais aussi que vous abordiez la scène de votre théâtre qui comporte d'autres personnages hauts en couleur sur lesquels vous avez écrit. Nous verrons ça dans un deuxième temps. Commençons donc par la famille Philippe. Il se trouve que dans la famille, vous avez d'abord rencontré Anne, qui fut la femme de Gérard.
Oui, j'ai commencé par rencontrer Anne, qui était donc la veuve de Gérard Philippe, qui était... Pour ma génération, donc je vous rappelle que je suis né en 56, c'était pas un mythe, c'était un comédien que j'avais vu au cinéma, dans Fanfan la Tulipe, bien sûr, beaucoup trop tard pour l'avoir vu au théâtre, et que comme beaucoup d'enfants de France de l'époque, et encore d'aujourd'hui, j'ai été bercé par... Pierre et le Loup, lu par Gérard Philippe, par le Petit Prince, etc. Donc voilà, c'était... Mais c'était pas le mythe qu'il était pour une autre génération avant moi, et comme il a pu le devenir pour la génération d'après. Pourquoi je raconte ça? C'est parce que, comme je vous le disais hier, la disparition de mon père, en 73, qui faisait suite à celle, à la perte de mon frère jumeau, fait que j'étais un garçon, un adolescent à 17 ans, très déboussolé, très perdu, à la limite de la détresse. Je me cherchais et évidemment, j'avais une sorte d'obsession perpétuelle, pour mon âge, de la mort. Et je lis, mais vraiment par le plus grand des hasards, un petit livre qui s'appelle « Le temps d'un soupir », qui est le récit dans lequel Anne Philippe raconte l'amour fou qu'il a uni à Gérard Philippe et puis aussi, évidemment, sa disparition. Et je lis ce livre dont je crois que j'ai souligné toutes les phrases tellement j'avais l'impression que ce livre non seulement me parlait, mais que même à 17 ans, j'aurais pu, voulu l'avoir écrit. Et à la fin, ce livre qui pourtant est un livre très noir, parce que c'est l'adieu à l'homme qu'elle a aimé, qu'a écrit Anne, mais c'est un adieu d'une femme profondément athée, qui ne croit pas à une vie d'après, évidemment, mais pas davantage à la présence des morts, et qui donc va jusqu'à, dans ce livre admirable, décrire la pourriture du corps de celui qu'elle a aimé. Mais malgré ça, alors que moi c'est exactement l'opposé à cette époque, ce livre me fait un bien fou. Et je fais une chose toute bête, c'est que après l'avoir lu, j'écris une lettre à Anne Philippe, au bon soin de son éditeur, je ne sais même plus si c'était pas en poche. Toujours est-il que elle me répond quelques lignes absolument admirables. Elle prend le temps de me répondre déjà, mais quelques lignes très belles dans lesquelles elle me dit que finalement que la souffrance est presque un privilège, une chance, et qu'il ne faut pas non plus se détourner de ce qui vous fait souffrir. Et donc je lui réponds à nouveau, elle me répond, je suis tellement émerveillé de dialoguer avec cette femme dont le livre m'a fait tant de bien, que je continue, et elle joue le jeu, je dois avouer, avec une générosité qui, depuis, m'a servi de modèle, puisqu'il n'y a pas une lettre à laquelle je ne réponde aujourd'hui, depuis que j'écris, puisque je crois vraiment à ce contact-là. Et puis un jour, elle me dit tout bêtement, ben voilà, arrêtez de m'écrire, venez me voir, ce sera plus simple. Et je vais effectivement au 17 rue de Tournon, qui était l'adresse, pour l'époque encore légendaire, où avait vécu le couple Philippe. Et elle m'accueille et je rencontre une femme impressionnante, de douceur, de tendresse.
Elle a 60 ans à l'époque, hein, vous en avez 18.
Oui, pour moi, elle n'a pas d'âge. Et encore une fois, c'est pour ça que je reviens à ce que je vous disais auparavant, c'est que elle est l'autrice du Temps d'un soupir. Elle n'est pas la femme, la veuve du mythe. Je vais même aller plus loin. Je pense même que ma lecture du Temps d'un soupir était tellement forte que ça aurait pu être un inconnu, ça m'aurait fait le même effet. C'était pas le Cid qui me touchait dans son histoire, c'était la perte de l'être aimé. Et donc voilà, j'arrive chez elle, cet appartement comme ça, tout moquetté de bleu, au deuxième étage, de fenêtre sur la rue de Tournon, et commence une amitié magnifique, parce que je vais aller la voir de plus en plus, déjeuner, prendre le thé, elle me parle, elle me fait des confidences. Il faut savoir que c'était une femme incroyablement discrète et secrète, qui ne parlait pas beaucoup, encore moins aux inconnus, qui se protégeait terriblement. On est donc dans la fin des années 70, et elle me raconte des choses incroyables. Par exemple, que souvent le matin, elle ouvre les fenêtres et les volets de la rue de Tournon, elle voit sur le mur d'en face, tagué, enfin peinturluré à l'époque en énorme, Cid n'est pas mort, que dans la rue on l'aborde, et que rôde autour d'elle cette fameuse cohorte de gens à moitié raisonnés et raisonnables qui veulent parler. Pour moi, c'est pas ça du tout. Et je pense que ça a joué dans la faculté qu'elle avait de me faire des confidences, y compris d'ailleurs à mesure que le temps passait, sur les derniers jours de Gérard Philippe, ce qui m'a permis et autorisé aussi à écrire un jour le dernier hiver du Cid. Et voilà, et donc c'est une très belle amitié. En plus, moi je lui fais rencontrer des écrivains que j'aime bien à l'époque, dont un poète et écrivain prix Goncourt qui est Jacques Chessel, le Suisse. Elle me fait découvrir un écrivain que je connaissais à peine, mais dont je suis tombé fou amoureux, qui est Georges Péros, avec ses papiers collés. Dont elle avait été l'amie, très proche, comme Gérard avait été le compagnon de théâtre et l'ami de Georges Péros. Enfin bref, c'est une magnifique amitié littéraire, et le hasard fait qu'un jour, effectivement, alors qu'on prenait un thé chez elle, rue de Tournon, entre dans l'appartement une jeune fille, blonde, ravissante, portant les cuissardes de Fanfan la Tulipe, avec un petit chien, ça j'oublierai jamais, et qui passe devant nous, mais vraiment avec la négligence qu'on a, voire un peu le mépris qu'on a pour les... Alors que j'étais plus jeune qu'elle, hein. Je parle d'Anne-Marie, de 2 ans, elle passe devant nous, encore un copain de ma mère, bon. Et elle va en fait chercher des affaires dans ce qu'était sa chambre de jeune fille, et puis elle repart, comme ça, salut, bon... Moi, je faisais les yeux de Tex Avery, bien sûr, et la porte, elle ferme la porte derrière elle, et je vois Anne qui me dit « Ma fille ». Et aussitôt, évidemment, je lui demande le numéro de téléphone. À l'époque, c'était des 01, hein, c'était pas des, il n'y avait pas de portable.
C'est même pas 01, je crois.
Pour pouvoir, pouvoir l'inviter à premier 31 décembre chez des amis. Et ensuite, elle me parle très bien de sa fille, quand elle était à nouveau tous les deux seuls, en me disant à quel point elle admirait chez Anne-Marie ce courage qu'elle avait d'être actrice. Parce que contrairement à tout ce qui peut se dire ou se croire, être la fille d'un mythe du théâtre et du cinéma n'est pas une chose facile. Et à l'époque, elle jouait Ruy Blas, je me souviens. Anne me le racontait aux Tuileries. Et puis aussi qu'elle avait fait un choix, qui était un choix de... Elle était à l'époque... elle travaillait beaucoup avec Peter Brook. Et elle avait monté une pièce de Tennessee Williams avec Woodsinas. Et elle faisait des stages même au Japon, que lui avait préconisé Peter Brook. Et donc elle était vraiment... Anne était partagé entre les entre cette à la fois cette admiration et en même temps cet amour évidemment d'une mère pour sa fille, mais en disant mais elle va au devant de problèmes terribles parce que c'est pas facile de bon. Et tout en rêvant secrètement, m'a-t-elle dit ensuite après de nous voir se rapprocher elle et moi. Et donc c'est comme ça que j'ai rencontré Anne-Marie, c'est-à-dire après Anne, et qu'ensuite ça a été assez merveilleux parce que évidemment on passait nos étés ensemble à Ramatuelle dans cette maison. Là encore c'est important parce que je crois que je n'aurais jamais écrit Le dernier hiver du Cid sans l'aval posthume d'Anne, sans évidemment l'accord d'Anne-Marie, mais surtout sans avoir vécu, mais vraiment vécu physiquement dans ces lieux où qui ont été les derniers lieux de vie du tout jeune Gérard Philippe, je vous rappelle, mort à 36 ans, c'est-à-dire la rue de Tournon, c'est-à-dire Ramatuelle, cette vieille ferme qui est devenue, qui n'est pas du tout la presqu'île de Saint-Tropez dont on peut parler aujourd'hui, c'est une vieille ferme rafistolée dont Gérard lui-même modifiait les plans, refaisait les petits murets, plantait, récoltait. Et puis enfin Cergy, très important, cette maison de Cergy sur les bords de l'Oise où la famille avait vécu, c'était pas trop loin des studios de Billancourt ni de Chaillot, et que où je suis allé quand Anne-Marie y a lu dans le jardin le temps d'un soupir, le livre de sa mère. Donc ces lieux-là, moi j'ai toujours besoin de lieux pour écrire, hein. Il faut que je suis plus inspiré par les paysages en fait que par les personnages. Et ensuite la manière dont nos enfants sont venus à Ramatuelle, où j'ai vu Anne s'éprendre notamment de Gabriel, donc de son petit-fils, l'emmener au fond du vallon et créer une relation qui a été finalement la manière de faire le lien entre ces jeunes enfants et ce jeune mort. Et donc c'est comme ça que je suis rentré dans cette famille sans entrer, encore une fois, c'est très important, dans une mythologie. J'entrais chez des gens qui...
Vous êtes plutôt rentré avec une personne qui avait aussi perdu son père très jeune, en l'occurrence.
Évidemment que ce lien d'orphelin, de père jeune, a été un ciment supplémentaire. Mais, comment dire... ce qui est très amusant, finalement, avec le temps, c'est que je me suis rendu compte que je changeais aussi de registre. C'est-à-dire, j'entrais dans cette famille Philippe, qui était l'exact opposé de la famille d'où je venais. Eux, c'était plutôt le monde du spectacle, c'était le monde ultra-intellectuel, ultra-politisé, compagnon de route, je vous le rappelle, pour Gérard et aussi pour Anne. Moi, c'était la bourgeoisie catholique et hippocratique, donc c'était tout à fait différent. Mais, en revanche, la soudure s'est faite aussi, d'ailleurs, maintenant que je vous en parle, je m'en souviens, avec une relation magnifique entre Anne et mon grand-père Clément Launay, le pédopsychiatre.
C'est ce que j'allais vous dire, parce que vous avez découvert que c'est votre grand-oncle qui avait opéré Gérard Philippe.
Oui, alors ça c'était un soir, on parlait avec Anne, elle me parlait des derniers jours de Gérard, et moi j'étais comme ça, et j'écoutais, et puis elle m'a à un moment donné parlé de ce moment cardinal qui a été l'instant où, après que le médecin a ouvert... Donc on est dans au mois de novembre, hein,
1959.
Voilà, 59, avant la mort de Gérard Philippe, le médecin, le chirurgien ouvre à la clinique Violet et referme sans opérer. On croyait que c'était des abcès amibiens qu'il aurait contracté en Amérique latine quand il y tournait. La fièvre montait, elle est pas haut. Et donc le chirurgien ouvre et constate que c'est un cancer primaire du foie absolument inopérable. Et donc, au lieu d'opérer, il referme. Et il prend Anne à part. C'est Anne qui me raconte ça. Et Anne lui demande combien de jours, combien de semaines. Et elle prend à ce moment-là la décision de cacher la vérité du mal à Gérard Philippe.
C'est ce que vous racontez dans Le dernier hiver du Cid.
Et que Anne raconte aussi dans Le temps d'un soupir. Et elle me dit ce soir-là, retournant, elle me dit « Mais tu sais, c'est une décision très difficile à prendre, de cacher la vérité à l'homme qui va mourir et qu'on aime. À l'époque, quand ça s'est su, on lui a beaucoup reproché. Hein. Heureusement, il n'y avait pas encore de réseaux sociaux. Et elle me dit, mais ce choix-là, je ne l'aurais pas fait de manière aussi radicale si je n'avais pas été aidé par le chirurgien. Et je dis, mais qui était le chirurgien à tout hasard? Et elle me répond, c'était François de Godard-Dalène, qui était donc le chirurgien de la clinique Violet. Et je lui dis, mais c'est mon oncle, enfin mon grand-oncle. Et alors là, on s'est dit, elle comme moi, on ne croyait pas au hasard, on croyait assez au destin, et c'était assez fou. Et c'est vrai qu'il a joué un rôle déterminant, parce qu'il a, ce grand-oncle que j'allais voir très souvent chez lui, boulevard de Montparnasse, a œuvré pour que Anne prenne ses décisions, qui est d'ailleurs une assez belle décision, parce que ma conviction, celle d'Anne-Marie aussi aujourd'hui, quand on en a reparlé, c'est que, évidemment, elle a menti. Gérard lui a pas dit que c'était la fin, mais que quelqu'un qui va mourir sait qu'il va mourir. Et donc, notre conviction absolue, c'est que Gérard aussi a menti à celle qu'il aimait pour l'épargner. Les deux se sont épargnés, et en fait, c'est un double mensonge d'amour. Il savait très bien qu'il allait mourir, et elle savait très bien, ou elle pressentait qu'il le savait, mais ils se sont accordés dans ce beau mensonge.
Jérôme Garcin, vous disiez tout à l'heure que vous aviez été, ou vous étiez encore d'ailleurs, plus inspiré par des paysages que par des personnages, et pourtant, dans votre œuvre, il y a beaucoup de personnages. Et Gérard Philippe en est un. Vous avez écrit ce qu'on pourrait appeler des romans biographiques ou des biographies romancées ou des exercices d'admiration, beaucoup. Et donc, encore une fois, Le Dernier Hiver du Cid est un exemple. En passant dans cette famille qui était une famille de théâtre, alors que vous veniez de la littérature, mais même dans votre passion dévorante pour la littérature que vous aviez et que vous entreteniez à cette époque-là, puisqu'après la mort de votre père, vous vous êtes réfugié dans la lecture, il y avait déjà des personnages, il y avait déjà des figures. C'était Stendhal, c'était Colette, c'était Kierkegaard, donc vous nous avez dit que vous avez fait un mémoire sur lui. Donc vous avez commencé par des personnages et vous avez continué par des personnages. Donc j'aimerais bien que vous reveniez là-dessus, sur cette idée que vous êtes quand même plus inspiré par des paysages que par des personnages, pour entrer dans les personnages en question.
Les personnages, évidemment, me plaisent, m'excitent, me provoquent mon envie d'écrire sur eux. Et ça, je vais en reparler. Mais je ne peux bien en parler, c'est mon sentiment, que si je les place dans des paysages que je connais. Je suis incapable de faire de ces personnages des figures théoriques. J'ai besoin de les incarner. Ma passion pour toute la littérature de Colette, que je tiens pour une des plus grandes écrivaines de langue française, c'est parce que c'est charnel, c'est gourmand, c'est physique. Ce sont des lieux, ce sont des parfums, ce sont des choses, et j'ai besoin de ça pour écrire. Je vous ai raconté pour Gérard Philippe, je pense que si je n'avais pas connu ces lieux-là, je dis bien ces lieux-là, il m'aurait manqué un élément essentiel pour raconter la vie de Gérard Philippe. Mon premier livre était consacré à un résistant qui s'appelait Jean Prévost, qui était un écrivain à l'époque peu connu, maintenant il l'est davantage, de la NRF, de l'entre-deux-guerres, admirable stendhalien. La création chez Stendhal, si vous ne l'avez pas lu, je vous conseille, très beau texte qu'il a écrit au moment du début de la... dont il a soutenu la thèse au moment du début de la guerre, est devenu, cet écrivain-là, un magnifique résistant, puisqu'il est entré dans le Vercors sous le nom de capitaine Goderville, où il a dirigé une compagnie. Et quand je dis dirigeait, c'était arme à la main. Et quand le soir tombait dans le Vercors, il allait sous sa tente, il finissait un petit texte sur Baudelaire. Donc il se battait dans la journée, et le soir il écrivait sur Baudelaire. Et Jean Prévost a été tué par les Allemands en 44, au moment où le massif a été pris par la Wehrmacht. Mais je n'aurais pas pu écrire sur Jean Prévost, qui était un enfant du pays de Caux, un Cauchois, si je n'avais rôdé à Yvetot, son pays natal, si je n'étais allé dans le Vercors où il s'est battu les armes à la main. Évidemment, j'aurais pu l'écrire sans ça, mais ça m'a inspiré. La part quand même de fiction est indispensable. Non, c'est pour ça que ce ne sont pas des biographies. Même Gérard Philippe, j'ai inventé des choses que je ne sais pas.
Non, c'est pour ça que c'est plutôt des récits au départ, voire des romans.
Absolument. Mais... Héros de Seychelles, pareil, qui a été qui a été guillotiné, qui était membre du Salut Public, guillotiné en 1794, a vécu à Épône. Je suis allé à Épône pour voir les traces de... J'ai besoin de ces paysages. Le seul, finalement, dont je n'ai pas eu à voir les paysages, et pour cause, mais je les ai sentis en tout cas, c'est Jacques Lucéran, à qui j'ai consacré un livre qui s'appelle « Le Voyant ». Et pour cause, puisque Jacques Lucéran est devenu aveugle à 8 ans, de manière accidentelle. Et je ne suis pas allé à Buchenwald, où il a été déporté, parce qu'il a été, je le rappelle rapidement, Jacques Lucéran, le créateur du premier, fondateur du premier mouvement de résistance lycéen à Louis-le-Grand, au début de la guerre, et a été arrêté à Fresnes et déporté à Buchenwald. Il a fait un livre de cette expérience dont il est sorti vivant, c'est-à-dire « Et la lumière fut », qui est cette chose que je n'avais jamais lue dans ma vie, de lire comme si le livre était en braille, raconter l'horreur d'un camp de la mort, vu par quelqu'un qui ne voit pas. C'est une expérience littéraire, je vous la conseille, inouïe. Et donc, évidemment, quand j'ai écrit sur lui, je ne dirais pas que j'ai fermé les yeux, mais pour le coup, les paysages ont été pour moi secondaires. Mais Étienne Bedant, l'écuyer mirobolant, ou tous ces personnages-là sont des personnages qui sont aussi nés de paysages. Ils ont en commun, tous, vous l'avez compris, c'est d'être mort jeune. Je ne sais pas écrire de romans biographiques ou biographies romancées. Je ne sais pas au sens où, en tout cas, je n'ai pas encore réussi à le faire, sur des destins qui vieillissent.
On met de côté Bartabas, met de côté François-Régis Bastide.
Je ne parle pas des vivants.
Il faut le préciser.
Je parle de la plupart de ces personnages-là, ont eu évidemment Gérard Philipe, mais Jean Prévost a été tué par les Allemands, il avait 40 ans.
Jacques Lucéran. Hérode
Séchelle était trentenaire quand il a été guillotiné.
Jean de la ville de Miremont qui a donné
Jean
le lieu horizon.
Jean de la ville de Miremont, magnifique poème de l'horizon chimérique et petit romancier d'une merveille qui s'appelle Les Dimanches de Jean Désert. Jean de la ville de Miremont, tué dans une tranchée sur le chemin des Dames au début de la Grande Guerre. Il avait 28 ans. Et d'ailleurs, je vous raconte ça avec comme si c'était évident, mais au début, je me rendais même pas compte que je faisais des choix littéraires qui étaient exclusivement consacrés à de jeunes morts.
Après, c'était intentionnel, une fois que vous en avez conscience.
Au début, c'était totalement inconscient.
Au début, ça ne l'était pas, mais ça l'est devenu.
Après, oui. Et après, je me suis dit, oui. Et donc, en fait, j'ai passé mon temps à transposer dans mes livres mes obsessions intimes. Et puis mes convictions aussi, alors là c'est vrai pour Prévost, c'est vrai pour la ville de Miremont, c'est vrai pour tous les autres, que une vie brève peut être d'une richesse incroyable. Quand même aujourd'hui, les gens ont du mal à comprendre et à imaginer que l'acteur Gérard Philipe ait pu, en mourant à 36 ans, jouer tous les plus grands rôles de théâtre qu'il a joués, tourner entre un, deux, voire trois films par an, avoir en plus une activité syndicale, une activité politique, créer le syndicat des acteurs, c'est à peu près inimaginable. Mais voyez ce que d'autres qui meurent à 95 ans n'ont pas réussi à faire, lui, il l'avait fait à moins de 36 ans. Donc, c'est aussi un peu une défense-illustration des œuvres des jeunes morts. Je crois assez à ça. Et Étienne Bedant, cet écuyer mirobolant, il a arrêté de monter dans la fleur de l'âge parce qu'il ne pouvait plus physiquement. Mais ce qu'il avait montré avant était l'essence même de son art équestre. Donc voilà, donc tout ça était effectivement un peu inconscient et c'est devenu conscient à mesure que j'écrivais.
Ce sont des vies brèves, mais ce sont aussi des livres brefs. Est-ce que ça, c'est volontaire?
Alors, ça dépend lesquels, parce qu'effectivement... L'horizon est plus long. Mais.
C'est pas des très gros livres à chaque fois.
Il y a deux choses. D'abord, je trouverais inconvenant de consacrer un gros livre à un être d'exception qui a une vie brève. Gérard Philipe, il y a eu plein de biographies remarquables d'ailleurs. Des grosses biographies. Je ne m'imaginais pas écrire un livre qui ne fût maigre, pour rendre compte précisément, là en l'occurrence c'est les derniers mois, de ce qu'est une vie brève. Et la seconde chose aussi, il faut dire la vérité, c'est que je suis intraitable avec moi-même. Je passe plus de temps à enlever qu'à ajouter. Certains livres, vous voyez le dernier par exemple, ou le nouveau, je préfère le dire, je touche du bois, le nouveau qui m'est fragile faisait à peu près le double. Donc je n'ai cessé d'enlever, pas tant par souci d'aller à l'os que par souci de ne pas tomber dans la complaisance. Et j'ai toujours peur que les sentiments, que l'émotion, que l'admiration bascule dans ce que j'appelle la complaisance. Et donc, j'ai retenu de Boileau qu'il fallait enlever. Et j'aime l'idée que cette maigreur soit aussi un peu un garde-fou. Olivier était presque 3 fois plus important que ce que j'ai publié. Et j'ai enlevé pour les raisons que je viens de vous dire, mais aussi parce que je trouvais à un moment donné... Il y avait un piège, c'était que tout d'un coup, cet enfant d'à peine 6 ans soit dans un livre où je parlerais davantage de moi, du survivant, du rescapé, que de celui qui a disparu. Et donc là, c'est pareil, j'ai enlevé pour rétablir l'équilibre. Mais c'est vrai que je suis à l'époque où j'écrivais à la main, exclusivement à la main, j'étais le plus grand consommateur de gomme et de Tipex ce qui soit. Mais je crois qu'on gagne. Là, je parle comme lecteur. Je pense que parfois...
C'est trop long.
On en rajoute. Vous savez, j'ai le même sentiment aujourd'hui, là, comme spectateur de cinéma, je pense que cette tendance à en rajouter, à allonger, n'est pas vraiment nécessaire. Donc c'est un peu les raisons qui font que je fais attention à mon poids.
Est-ce que, de tous ces points de vue-là, vous diriez que c'est une œuvre homogène? Disons que tous les livres se répondent comme une ronde.
Je dirais que c'est une ronde, mais que c'est d'abord une villégiature de papier, quoi. Si possible, au bord de la mer. J'aime bien cette idée que, effectivement, que dans cette maison, je rassemble les miens, et puis ceux que je n'ai pas connus, mais que j'admire ou que j'aime. Et je vais même jusqu'à rêver que dans cette maison, tout en regardant la mer, mon père discute avec Gérard Philippe, que ma mère discute avec Jean de la Ville de Miremont et que Jean Prévost dit son admiration au résistant Jacques Lucieron.
Merci, Jérôme Garcin.
Merci à vous.
On se retrouve demain.
J'espère.
Alors, bonne soirée. C'était À Voix Nue, chargé de programme Daphné Abgral, prise de son Frédéric Quérou, réalisation Félicie Faugère, une série de Caroline Brouet à réécouter et à podcaster sur le site de France Culture et l'application Radio France.